Newsletter numéro 128 du 14 avril 2014. Bonjour. Cette newsletter numéro 128 du 14 avril 2014, pour revenir sur ce qui s'est passé au cours de ces deux dernières semaines, puisque la précédente a été publiée le 28 mars, à quelques heures de la clôture de la campagne officielle de ce deuxième tour des élections municipales, qui, je l'espérais en tout cas, devait voir la victoire de la liste de Jean Cayron, à laquelle j'avais apporté mon plus total soutien. J'avais conclu cette newsletter par le communiqué que Varmatin n'avait pas jugé bon de publier, ce qui est fort regrettable, eu égard au faible écart de voix, qui ne nous a pas permis de bouter hors de la mairie le maire sortant, selon l'expression de celui qui en est le principal artisan et le premier responsable, Francesco Lio. En effet, en se maintenant au deuxième tour, malgré un retrait d'une partie de ses colistiers qui ne partageaient pas sa position personnelle, ce candidat pourtant signataire de la charte anticorps, a anéanti et ruiné les espoirs de changement à la tête de la commune. Certes, comme l'a titré Varmatin, voire Flash Info en annexe, le maire sortant a senti le vent du boulet. Mais avec 162 voix d'écart, il conserve son siège alors que près de 6 électeurs sur 10 ont marqué leur défiance envers lui. C'est le choix des urnes et il faut le respecter. En revanche, ce qui n'est pas respectable, c'est la façon dont ce résultat a pu être obtenu. L'ambition personnelle, la volonté d'exister enfin, sur l'échiquier politique local, ne sont pas les seules motivations de celui qui a tout gâché, et qui par son entêtement inconcevable, a permis de faire réélire celui dont il nous disait depuis 6 ans, vouloir lui faire quitter la mairie. La machination orchestrée par de puissants réseaux, instrumentalisée par quelques missiles dominici envoyés par des voisins très impliqués dans le renouvellement du mandat de leur poulain, a parfaitement réussi. Tout cela vient de loin et les tractations de dernière minute n'ont fait que mettre un point final à une stratégie engagée voici quelques mois déjà, sans qu'une partie des candidats de cette liste en ait été informée. S'il avait été, il n'aurait pas cautionné ce jeu personnel, ni ces tripatouillages de bas étage et M. Lio n'aurait donc jamais atteint la barre des 10% des suffrages exprimés nécessaires pour se maintenir au deuxième tour. Il suffit de regarder avec attention les résultats que je vous communique dans le flash info en annexe. Les conséquences de cette trahison ne peuvent être estimées à ce jour, mais elles sont considérables, car elles ont des impacts sur la gestion de la commune certes, mais aussi sur la communauté d'agglomération et Var Méditerranée, la fameuse CAVEM, présidée à nouveau par l'oracle du lion de mer, qui a pourtant tremblé, pensant son siège si précieux lui échapper en cas de défaite de son poulain, celui qu'il qualifiait de « meilleur d'entre nous ». Tu parles. J'ai eu l'occasion de dresser quelques constats sur ma page Facebook, et mes messages sont repris sur mon site. Il est des erreurs que l'on ne finit jamais de payer, Monsieur Lio. Celle-ci en est une et je ne peux conclure sur ce point qu'en vous rappelant ce vers de Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. En cette semaine pascale, je vous invite à méditer sur ces mots, lourds de sens, comme votre positionnement aussi inqualifiable que condamnable. Depuis, le nouveau conseil municipal a été installé le 4 avril, le maire a été réélu et il aura face à lui une opposition combative et déterminée, comme l'a indiqué Jean Cayron dans sa déclaration en séance. Les adjoints ont aussi été désignés, mais il faudra attendre maintenant vendredi 18 avril pour connaître leur délégation, et découvrir peut-être quelques surprises, si j'en juge par les déclarations du maire sortant sur France 3, à propos de M. Lio qui l'entend visiblement remercier. Nous aurons l'occasion de commenter tout cela le moment venu. Au-delà de la déception roquebrunoise, les résultats dans le Var ont amené leur lot de confirmations, mais aussi quelques surprises. L'accession à la tête de 3 de nos communes varoises de liste du Front National, témoigne du grand désarroi des électeurs, et surtout de la défiance de plus en plus marquée et affichée, envers des élus de droite comme de gauche, qui symbolise un système qui vient de démontrer une fois de plus, ses limites. Car, c'est bien de cela qu'il s'agit, et non, comme le laissent encore à penser quelques chroniqueurs donneurs de leçons, de sautes d'humeur d'un électorat attiré par des sirènes, fussent-elles de couleur bleu marine. J'avais eu l'occasion d'affirmer dans l'une de mes précédentes newsletters que nous étions arrivés à la fin d'une époque, et qu'il était à présent indispensable tout remettre à plat pour reconstruire un modèle plus adapté à notre temps, et aux évolutions comportementales et sociétales de ces dernières décennies. Cela fait des années que l'on nous annonce que ce pays va être réformé. Cela fait des années que l'on dresse des constats, basés sur des évidences partagées désormais par tous les courants politiques. Et pourtant, malgré les signaux envoyés par les électeurs, témoignant d'un ras-le-bol et d'une volonté de changement, aucune véritable proposition novatrice n'est avancée. Pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que, l'on ne peut demander à ceux qui ont créé et mis en place ces systèmes, qui ont voté ces lois, qui ont défini ces règles de fonctionnement, qui ont proposé ces modèles d'organisation territoriale, de les changer. Et c'est bien cela le drame. Ils les ont créés. Ils en vivent. Ils s'y complaisent. Ils ne peuvent imaginer une seule seconde de changer un monde dans lequel ils profitent de leur situation, de leurs avantages, de leur pouvoir exorbitant. Pour la quasi-totalité d'entre eux, c'est devenu un métier, et ils sont donc prêts à tout pour être réélus. Qui peut changer tout cela? Quand je constate que sur les 16 ministres de ce gouvernement qualifié de combat, on compte 9 hauts fonctionnaires, 3 enseignants, 3 avocats et un juriste, je ne retrouve pas la représentativité nationale, et surtout manque celles et ceux qui pour moi sont les vrais combattants, ceux font vivre notre pays, ceux qui se lèvent le matin pour produire, pour créer de la richesse et de la valeur, pour offrir des services par leurs compétences et leur engagement, ceux qui entreprennent, ceux qui doivent impérativement être performants pour gagner leur journée, et éviter les fins de mois difficiles. Fait révélateur de ces constats, le tourisme a été oublié. Pourtant il y a quelques semaines encore, le président de la République déclarait le tourisme, comme priorité nationale pour le positionner à la place qui lui revient. Consécutivement, le Premier ministre demandait à Sylvia Pinel, notre ministre qui a fait du très bon boulot, d'organiser les assises du tourisme, en associant pas moins de 17 ministères pour affirmer le caractère transversal de ce secteur. Pour la première fois depuis bien longtemps, les acteurs professionnels et institutionnels du tourisme, regroupés dans 9 groupes de travail depuis la fin du mois de novembre, ont formulé des propositions concrètes pour dynamiser le tourisme, et renforcer l'attractivité de la destination France. Après 3 réunions de pilotage, nous étions arrivés au dernier stade de nos conclusions, qui devaient enfin être présentées à tous les acteurs. On nous a annoncé voici quelques jours, que Madame Flore Pellerin avait été nommée, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme, et des Français de l'étranger, auprès du ministre des Affaires étrangères, et du développement international. Oups! Outre le rattachement au ministre des Affaires étrangères, après celui de l'économie, et des finances ou encore celui de l'équipement et des transports, il nous est difficile de mesurer ce que recouvre ce secrétariat d'État. Après avoir fustigé l'incohérence de cette décision, notamment lors d'une interview à France Inter ou encore vendredi, lors de mon intervention sur le budget du tourisme du CG83, je constate avec stupeur que cela répond simplement aux propos du président de la République, traduit par son nouveau Premier ministre. En effet, comme vous pourrez le vérifier dans le flash info joint en annexe où je vous reproduis quelques extraits de la plaquette officielle des Assises du tourisme, le président s'est prononcé pour un objectif clair, maintenir la France au premier rang mondial, et dégager le premier solde touristique de tous les pays d'Europe. C'est donc bien ça. On limite le tourisme à la promotion, en oubliant les fondamentaux de cette activité transversale, reposant certes sur une satisfaction de la demande, mais aussi et surtout sur une offre structurée et adaptée aux attentes de nos clients, qui je le rappelle, ne sont pas tous internationaux. Il va nous falloir une fois de plus, repartir au combat, remonter au créneau pour aller faire comprendre à nos décideurs gouvernementaux, ce qu'est réellement le tourisme, et surtout ce qu'il peut apporter à notre pays et à nos territoires, si l'on veut simplement le considérer à sa juste valeur, et le positionner au niveau qui est le sien. Un secteur qui pèse près de 8% du PIB, bien plus que l'agriculture, l'automobile ou encore l'aéronautique. Un secteur qui crée des emplois, de la richesse et de la valeur, dans les destinations urbaines, rurales, et ou littorales les plus réputées, comme dans les territoires les plus reculés, et qui permet à nos populations, ainsi qu'à nos jeunes d'envisager de vivre et de travailler au pays. J'aurai l'occasion de revenir sur la séance plénière du Conseil Général de vendredi dernier, où j'ai présenté les chiffres du tourisme varois, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la rubrique Observatoire du tourisme varois du site www.visitvar.fr, ainsi que sur le budget 2014 que nous avons voté. Concernant mes activités, outre les séries de rendez-vous dans ma permanence de Puget sur Argent, je me suis rendu lundi dernier à Toulon, pour la commission des finances, et la commission permanente. J'ai aussi participé à la commission stratégie d'Atout France, et siégerai jeudi au conseil d'administration à Paris. Je vous invite à prendre connaissance du flash info joint en annexe. Bonne lecture et à bientôt sur notre site. Jean-Pierre Serra.